OK, on va commencer notre troisième leçon dans notre série sur la doctrine de la sanctification biblique. Ce soir, on va regarder la sanctification biblique, sa vraie nature et ses marques visibles. Alors, dans notre dernière leçon, nous avons vu qu'une connaissance correcte et biblique du péché constitue la base d'une compréhension vraie du christianisme. Les notions de conversion, de justification et de sanctification en dépendent. Sinon, ces précieuses vérités risquent de n'être que des mots vides de sens. Nous étudierons cette semaine jusqu'à quel point le sujet de la sanctification est important pour nos âmes. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne sommes pas sauvés. Selon la Bible, trois choses sont absolument essentielles et nécessaires pour le salut: la régénération, la justification et la sanctification. Les trois éléments sont intimement reliés et ne peuvent pas être séparés. Si une personne n'a pas un des trois éléments, il n'est pas un authentique chrétien aux yeux de Dieu. Dans cette leçon, nous examinerons les deux points suivants: la vraie nature de la sanctification et ses marques visibles. Et la semaine prochaine, dans la prochaine leçon, on va regarder la différence entre la sanctification et la justification pour effacer toute confusion dans nos esprits. Alors, la leçon de ce soir était plus longue que celle que je vous donne, parce que la partie, J.C. Ryle avait une partie où il faisait vraiment une explication de la différence entre la justification et la sanctification qu'on avait vue dans une leçon qu'on n'a pas enregistrée, mais on va revenir là-dessus encore une fois, parce que c'est tellement important de saisir la différence entre les deux. Alors, la semaine prochaine, ça va être le sujet de la leçon, la différence, ce qu'il y a de similaire entre la sanctification et la justification, et ce qu'il y a de différent. Quand on saisit pleinement ça, on vient de comprendre beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Alors, Jean 17, 17, qui est dans la prière sacerdotale de Christ, ça dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, le Seigneur dit le moyen par lequel il va nous sanctifier, c'est par sa parole. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, « C'est ici, en effet, la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. » Alors, on va regarder le premier point qu'on avait dit, la vraie nature de la sanctification. Alors, J.C. Ryle, lui, commence par une définition qui tire de la confession de foi de sa dénomination. Puisqu'on est baptiste, on va regarder selon qu'est-ce que les Écritures nous disent selon une définition biblique de la sanctification. Alors, on peut trouver dans notre confession de foi baptiste de Londres de 1689, au chapitre 13. Alors, on va la lire ensemble, on n'ira pas voir tous les versets, mais ça donne un résumé succinct, bien fait, un résumé très complet de ce que c'est la doctrine de la sanctification selon les Écritures. Alors, le premier paragraphe dit « Ceux qui sont unis au Christ, qui sont efficacement appelés et régénérés, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau, créé en eux, en vertu de la mort et de la résurrection du Christ, sont en plus réellement et personnellement sanctifiés en vertu de la même puissance par sa parole et son esprit qui habite en eux. Le règne du péché est détruit et leurs nombreuses passions sont progressivement affaiblies et mortifiées, alors qu'eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermis dans toute grâce salutaire en vue de la pratique de la vraie sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Deuxième paragraphe, cette sanctification est opérante dans l'homme tout entier, bien qu'elle demeure imparfaite durant cette vie. Dans tous les aspects de cette vie demeurent des restes de corruption qui donnent lieu à une guerre continuelle et implacable. La chair, en ses passions, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Troisième paragraphe, dans cette guerre, bien que la corruption rémanente puisse pour un temps prévaloir, Néanmoins, en raison des ressources permanentes qui lui proviennent de l'Esprit sanctifiant du Christ, l'être régénéré l'emporte. Ainsi, les saints croissent en grâce et perfectionnent leur sainteté dans la crainte de Dieu. Ils désirent ardemment vivre une vie céleste dans l'obéissance évangélique à tous les commandements que le Christ, le chef et le roi de l'Église, leur a prescrits dans sa parole. Alors, Alors, celui qui suppose que Jésus-Christ a vécu, est mort et ressuscité de façon à pourvoir à la justification et au pardon des péchés de son peuple, a encore beaucoup à apprendre. Qu'il s'en rende compte ou non, il déshonore notre Seigneur béni en faisant de lui un demi-sauveur. Le Seigneur Jésus a réalisé tout ce que les âmes de ses élus avaient besoin. Non seulement de les délivrer de la culpabilité de leurs péchés par sa mort expiatoire, mais également de la domination de leurs péchés en leur donnant le Saint-Esprit. Non seulement pour les justifier, mais aussi pour les sanctifier. Il n'est pas seulement notre justice, mais aussi notre sanctification. On voit la vérité de cela dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors, on voit que le mot justice et sanctification sont tous les deux à l'intérieur du verset. Jean 17, verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 26, « Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Tite, chapitre 2, versets 13 et 14, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. » Colossiens, chapitre 1, verset 22, « Il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort pour vous présenter devant lui, saint, sans tache et irrépréhensible. » Hébreux 2, 11, « Car tous, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, relèvent d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Les saintes Écritures sont pleines de déclarations ou de propositions décrivant l'exacte nature de la sanctification. Alors, J.C. Ryle en énumère 12. C'est de valeur que je ne puisse pas vous donner tout le texte qu'il donne. C'est vraiment extraordinaire. J'avais donné les titres de la version courte et la version longue. Je lis toujours la version longue avant. Je me sers de la version courte pour faire la structure. Mais je recommande ce livre-là, là, haut la main. Je pense que je paierais pour que quelqu'un le lise. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne vous dis pas ça. C'est vrai, là. C'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lus depuis le début de ma vie chrétienne. J'en ai quand même lu un certain nombre, là. Et celle-là, c'est vraiment un numéro spécial. J.C. Ryle a fait un travail extraordinaire dans le développement de la doctrine de la sanctification. Ça, je peux vous dire ça. Alors, la première déclaration que les Écritures nous donnent quant à la nature exacte de la sanctification, la voici. La sanctification est le résultat invariable de l'union vitale avec Christ que la vraie foi donne aux chrétiens. Si on n'est pas uni vitalement avec Christ, peu importe les efforts que la personne pourra faire pour se sanctifier, ça va être un échec monumental. Alors, Jean, chapitre 15, versets 5 et 6, « Je suis le cep, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Dans les leçons précédentes, ce que je faisais, j'essayais de choisir les versets qui étaient les plus représentatifs de l'idée qu'il voulait nous exprimer. Maintenant, j'ai décidé, parce qu'il donne d'autres versets, sans les mettre au complet dans le texte, j'ai décidé de les donner, advenant que vous ayez le goût d'étudier plus en profondeur et d'aller voir les versets. Alors, j'ai donné la liste des versets que tout auditeur ou lecteur devrait examiner. Jacques 2, versets 17 à 20, Tite 1:1, Galates 5, verset 6, 1 Jean, chapitre 1, verset 7, et 1 Jean 3:3. Alors, ce n'est pas les versets qui manquent pour démontrer que sans union vitale avec le Christ, la sanctification, ça ne marchera pas. La deuxième déclaration biblique concernant la sanctification, alors c'est encore dans le texte, dans le contexte d'étudier la nature de la sanctification. La sanctification est l'aboutissement. J'ai eu beaucoup de misère à traduire ça. J'ai regardé le mot « outcome ». En anglais, c'est le « outcome ». Il me semble que c'est clair. Ça sort de « outcome ». Mais le mot « aboutissement », je pense que ça donne quand même une traduction qui est acceptable. Alors, la sanctification, c'est l'aboutissement, ou le « outcome » en anglais, et la conséquence inséparable de la régénération. Autrement dit, si quelqu'un est véritablement régénéré, il va se sanctifier parce que c'est l'aboutissement que Dieu avait décidé de donner à ceux qui croiraient. Alors, 1 Jean, chapitre 2, verset 29, « Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. » 1 Jean, chapitre 3, verset 9 à 14, « Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frère, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Troisième déclaration, la sanctification est la seule preuve certaine de l'habitation du Saint-Esprit en nous qui est essentielle au salut. Romains chapitre 8, verset 9 et verset 14. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Galates 5, versets 22 à 25, « Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Le Saint-Esprit est toujours actif dans l'âme du véritable croyant. Cela sera visible et observable dans son cœur, dans son caractère et dans sa vie quotidienne. il y aura du fruit dans sa vie et sa marche le démontrera manifestement. Quatrième déclaration, la sanctification est la seule marque certaine de l'élection divine. Les femmes et les hommes élus sont caractérisés par des vies sanctifiées. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Il faut vraiment s'arrêter à regarder ce que le texte dit. Ça dit que Dieu nous a choisis avant la fin du monde, et c'est le mot « afin » qui est le mot clé dans la compréhension du verset. Il nous a choisis en Christ dans le but de qu'on soit saints et irrépréhensibles devant lui. S'il n'y a pas de sanctification dans nos vies, c'est la preuve qu'on ne lui appartient pas. C'est des versets puissants quand on y pense. Là. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, « Élu selon la présence de Dieu le Père, pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « Mais pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. » Romains 8, 29, ça en a un autre puissant. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. » Être conforme à l'image de Jésus-Christ, c'est un gros contrat. Dieu dit qu'il nous a créés dans ce but-là. À quelque part, s'il n'y a pas une manifestation visible de cela dans notre vie, il faut se poser des questions. Cinquième déclaration, la sanctification est une chose qui est toujours visible, observable par les autres, autrement dit. Luc 6, versets 43 et 44, « Il n'y a point de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui produise de bons fruits, car chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne cueille pas des raisins sur un buisson. » Matthieu 25, 37, « Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? » Un saint en lequel on ne peut voir que de la mondanité et du péché est un genre de monstre qui n'est pas reconnu comme un authentique croyant dans la Bible. Sixième déclaration, la sanctification est exigée du croyant et il en est responsable devant Dieu. Le passage de 2 Pierre 1, 3 et 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. » Il dit qu'il nous a donné tout et des très grandes et très précieuses promesses afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine. Alors, quelque part, être participant de la nature divine, c'est certainement être sanctifié. Septième déclaration, la sanctification comporte de la croissance et des degrés. Pas tout le monde qui est au même niveau. Alors, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire, et maintenant, et pour le jour d'éternité. Amen. » Les croyants les plus sanctifiés voient plus, savent plus, sentent plus, font plus, se repentent plus et croient plus à mesure qu'avance leur vie spirituelle et leur marche devant Dieu. Huitième déclaration, la sanctification s'accomplit par l'utilisation des moyens de grâce. Les moyens de grâce sont des cadeaux du Seigneur. Nous devons les utiliser régulièrement et abondamment. Ils sont nos rapports avec la Bible, écouter la Bible, lire la Bible, méditer la Bible, mémoriser la Bible et étudier la Bible. Donc, à quelque part, ce sont des moyens de grâce. On va se sanctifier d'autant plus qu'on va les utiliser authentiquement. La prière aussi, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit de couple, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit en église, encore des moyens de grâce. L'assistance aux réunions de l'église locale, les cultes du dimanche, la soirée de prière et les autres réunions qui se tiennent dans une église locale. Le repas du Seigneur, l'évangélisation, le service. Ce sont les canaux par lesquels le Seigneur déverse ses bénédictions. J.C. Ryle fait cette très judicieuse observation. There are no spiritual gains without pains. Autrement dit, on ne peut pas croire dans le Seigneur et utiliser les moyens sans que ça nous coûte quelque chose. Quand ça ne nous tente pas d'aller au culte, puis on y va pareil, c'est pains. Pains, c'est. Il dit, there is no spiritual gains. Tu n'as pas de gains spirituels sans qu'il y ait des douleurs qui accompagnent tout cela. Parce que bien souvent, on va au culte, ça ne nous tente pas. Bien souvent, on prie, ça ne nous tente pas. Quand on le fait pareil, c'est là qu'on utilise le moyen que Dieu met à notre disposition. Et c'est ça qui fait qu'on se sanctifie. Parce que c'est les canaux par lesquels Dieu veut qu'on se sanctifie. Alors, moi, je traduis ça librement en disant, il n'y a pas de gain spirituel au pluriel sans effort coûteux. Ça coûte toujours quelque chose d'utiliser les moyens de grâce que le Seigneur nous donne. Neuvième déclaration, la sanctification n'empêchera pas le croyant d'expérimenter un grand combat spirituel intérieur entre la chair et l'esprit. Pas à cause que quelqu'un se sanctifie qui ne sentira pas le combat intérieur entre sa vieille nature et sa nouvelle nature, et il va le connaître d'autant plus difficilement, plus il va se sanctifier, plus il va se sentir. Autrement dit, Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. » Romains, ça c'est un des peut-être des chapitres les plus contestés des Écritures, Romains 7. Romains 7, il faut le comprendre, et la grande question est-ce que Paul parle d'un homme régénéré? Est-ce qu'il parle de lui après sa régénération ou s'il parle de lui avant? Alors c'est la réponse, c'est il parle de lui après qu'il est né de nouveau. Et c'est ça qui est. Alors il dit, je trouve donc cette loi en moi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Autrement dit, tu es en train d'illustrer le combat intérieur qu'on aura toujours durant toute cette vie. Et là, il finit dans le verset 24. « Misérable homme que je suis. » Qui me délivrera de ce fardeau de mort? Tous les journaux intimes et les biographies des grandes saintes et des grands saints peuvent témoigner de cette vérité-là. Dixième déclaration, la sanctification n'est pas une chose qui peut justifier un homme, mais elle plaît cependant à Dieu. Là, l'importance de faire la différence entre la justification et la sanctification, qu'on va le faire la semaine prochaine, on n'est pas sauvé à cause de notre sanctification. Autrement dit, même si on fait plein de bonnes choses, qu'on obéit à Dieu, qu'on essaie de lui plaire en toutes choses, on n'est pas sauvé à cause de ça. On est sauvé et justifié en la personne de Christ, ce qu'on appelle son obéissance active et passive. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Très, 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 très important de saisir ça. Hébreux chapitre 13, verset 16, « Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » Alors, quand on se sanctifie, ça fait plaisir à Dieu. Ça ne nous sauve pas, mais ça lui fait plaisir. Colossiens chapitre 3, verset 20, « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. » 1 Jean chapitre 3, verset 22, et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, en se sanctifiant, on est agréable à Dieu. De même que les parents sont touchés par le moindre geste que fait un enfant dans le but de leur plaire ou de leur obéir, le Seigneur apprécie nos bonnes actions, même si elles comportent encore des imperfections. Dieu regarde à nos motifs, aux principes qui animent nos actions et à nos intentions. Cependant, nous devons nous rappeler que seule notre foi en la justice, en la glorieuse personne et en l'œuvre merveilleuse et parfaite, imputée du Christ, nous justifie devant Dieu. Ça, on va revenir là-dessus parce que c'est super important. Onzième déclaration, la sanctification est la seule chose qui nous sera demandée comme absolument nécessaire, comme un témoin ou une preuve de notre caractère lors du grand jour du jugement. Les questions qui seront examinées par le Seigneur ne seront pas comment nous avons parlé et ce que nous avons professé, mais bien comment nous aurons vécu et ce que nous avons fait. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Apocalypse, chapitre 20, versets 12 et 13. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et dernière déclaration, la sanctification est absolument nécessaire pour nous entraîner et pour nous préparer à la vie au ciel. Beaucoup de personnes désirent aller au ciel, mais peu considèrent s'ils aimeraient vraiment vivre dans un pareil endroit, si absolument saint, dont tous les habitants sont saints, dont toutes les occupations sont saintes, et dont le maître du lieu est infiniment et absolument saint. Nous devons être saints sur la terre si nous voulons être saints dans le ciel. Nous avons besoin de l'œuvre de Christ, mais aussi de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Hébreux, chapitre 13, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un verset très sévère. Le Seigneur, il dit, si on n'a pas de sanctification dans nos vies, on ne le verra pas. C'est plus compliqué que ça. Maintenant, on va passer au deuxième point, les signes visibles de la sanctification. On a dit que quand il y avait une véritable signification, sanctification, il y avait toujours des signes qui sont visibles et manifestes aux yeux des autres. Quels signes visibles et manifestes nous attendons-nous de voir dans une personne sanctifiée? Alors, la première chose, la vraie sanctification ne consiste pas à parler de religion. 1 Jean chapitre 3, verset 18, « Mes petits-enfants, n'aimons pas de paroles ni de langues, mais en action et en vérité. » Certaines personnes sont si familières avec le vocabulaire et les idées de l'Évangile et en parlent avec une telle abondance qu'elles convainquent les autres qu'elles sont des véritables croyants. J'en ai connu. Deuxième signe, la vraie sanctification est davantage que de jouir d'expériences religieuses. On parlait tantôt, on nommera pas de personne, mais on parlait tantôt de personnes qui se glorifient de vivre des expériences. La sanctification, ce n'est pas de vivre des expériences. Matthieu, chapitre 13, versets 20 et 21. « Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même, il ne dure qu'un moment. Et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. » Et là, j'ai oublié de noter le verset, mais ça dit « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, seront persécutés. Alors nous devons nous méfier des feux de paille qui sont souvent apportés dans les campagnes d'évangélisation où la musique, les chants et les émotions peuvent séduire et tromper. Troisième signe de la véritable sanctification. La vraie sanctification ne consiste pas en formalisme et en des expressions de dévotion externes. Ce n'est pas parce qu'une personne assiste régulièrement aux assemblées de son Église, qu'elle prenne le repas du Seigneur, qu'elle occupe une fonction de service, qu'elle jeûne ou qu'elle multiplie les génuflexions et les gestes du corps en supposée piété, qu'elle fasse des sacrifices, qu'elle fasse un certain déni de soi, ou qu'elle utilise des images ou des croix, qu'elle a nécessairement reçu la grâce authentique de Dieu. Matthieu 15, versets 8 et 9, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Quatrième signe, la vraie sanctification ne consiste pas à s'isoler du monde. Se retirer dans un couvent ou un monastère peut paraître bien pieux, mais la Bible ne demande pas une telle chose. Jean chapitre 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Cinquième signe, la vraie sanctification ne consiste pas en la performance occasionnelle de bonnes actions. On lit par exemple dans Marc 5 comment Hérode écoutait Jean-Baptiste avec plaisir. Et même, ça modifiait son comportement. Parce que ça dit « Parce qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, il le considérait. Il faisait même beaucoup de choses selon ses avis et il l'écoutait avec plaisir. » 2 Chroniques, chapitre 31, verset 21. Contrairement à Hérode, le croyant, lui, va faire des bonnes actions toute sa vie. Alors, Ézéchias, en usant ainsi par tout Juda, et il fit ce qui est bon, droit et véritable devant l'Éternel son Dieu, et dans tout l'ouvrage qu'il entreprit pour le service de la maison de Dieu, et pour la loi et pour les commandements, en recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et il réussit. Sixième, la vraie sanctification consiste en un respect et une obéissance à la sainte loi de Dieu comme règle de vie. Pas pour être sauvé, mais comme règle de vie. Il n'y a pas de plus grande erreur que de croire que le décalogue, les 10 commandements de Dieu, n'a plus sa place dans la vie du croyant comme règle de vie. Il n'essaie pas d'obéir à la loi dans le but de mériter son salut ou de gagner son ciel en tentant de lui obéir. 1 Timothée, chapitre 1, versets 7 et 8. Prétendant être docteur de la loi, quoiqu'ils n'entendent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils donnent comme certains. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. Comme règle de vie, c'est un usage légitime. Comme dans le but de se sauver, c'est un usage illégitime. Romains 7, 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Septième signe, la vraie sanctification se manifestera dans le désir habituel de vivre à la hauteur des standards que Paul a mis dans les églises, dans ses épîtres. Alors, si on étudie, les épîtres de Paul sont toutes bâties de la même façon. La première partie de l'épître, ordinairement, c'est à peu près la moitié, c'est de la doctrine, de l'enseignement, comprendre des principes. La deuxième partie, c'est toujours des choses pratico-pratiques. À cause de ce que je viens de vous dire, vous devez vous comporter de telle et telle et telle manière. Alors là, c'est pas, on n'apprend pas juste de la théorie, on apprend aussi de la pratique. Alors, toutes les épîtres de Paul sont composées de la même manière. La première partie est constituée de doctrine et la deuxième d'exhortation pratique. Et la huitième signe, c'est la vraie sanctification, se verra dans l'attention habituelle donnée aux grâces actives comme celle exemplifiée par le Seigneur et particulièrement celle de la charité. Autrement dit, une grâce active, c'est quelque chose qu'on se doit de pratiquer. On va voir tantôt qu'il y a des grâces passives dans l'autre. Mais on va commencer par les actives. Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Colossiens 3, 9 et 10, « Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. » Autrement dit, les grâces actives, c'est les grâces dans lesquelles on prend un certain... on agit. Tandis que les grâces passives, on va voir que J.C. Ryle les considère encore plus difficiles à mettre en pratique que les grâces actives. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire par ça. La vraie sanctification se verra dans l'attention habituelle donnée aux grâces passives du christianisme. Ce sont les grâces de se supporter les uns les autres. 1 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 23. « Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions. » Voyez-vous, endurer, ce n'est pas actif. Endurer, c'est endurer. On sait tout ce que, c'est que ça veut dire, endurer, en souffrant injustement. « Quelle gloire, en effet, vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait? Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui, outragé, ne rendait point d'outrage, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Quand on regarde Galates 5, versets 22 et 23, il y a 9 choses qui sont mentionnées comme étant des manifestations du fruit de l'Esprit. Sur ces 9-là, il y en a 3 qui sont des grâces, on pourrait dire, passives. La patience, bon, si on lit le verset 22 et 23, ça dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. » Quand on est patient, on est passif. On n'est pas nécessairement actif. La bonté, la bénignité, la fidélité et la douceur. Donc, les 3 dont J.C. Ryle dit qu'ils sont plus difficiles à faire que les grâces actives, c'est la patience, la bénignité et la douceur. Après ça, il y avait la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Des 9 facettes du fruit de l'esprit, 3 sont des grâces passives, la patience, la bénignité. Non, la bénignité, c'est tout simplement la qualité d'une personne qui est bienveillante et la douceur. J.C. Ryle considère que les grâces passives sont les plus difficiles à atteindre, mais ce sont précisément les grâces qui ont le plus d'influence dans le monde et dont celui-ci a le plus grand besoin. Les chrétiens ne devraient pas faire partie des personnes les plus grincheuses, les plus maussades et les plus de mauvaise humeur. Ils ne devraient pas non plus être comptés parmi celles qui ont les langues les plus sales ou les plus aiguisées, parmi celles qui sont désagréables envers leur entourage, qui sont vindicatives, revanchardes ou malicieuses. Le monde est malheureusement plein de ce type de personnes. Les chrétiens devraient refléter tout le contraire pour la gloire de Dieu. Alors, les applications que je fais du texte aujourd'hui, comprenons-nous ce qu'est la véritable nature de la sanctification, une œuvre du Saint-Esprit, une union vitale avec Jésus-Christ, un aboutissement et une conséquence inséparables de la régénération, une évidence de l'habitation du Saint-Esprit en nous, une marque certaine de l'élection divine, une chose visible et manifeste aux yeux de tous, une chose pour laquelle le croyant est responsable, une chose capable de croissance et de développement, une chose qui exige l'emploi diligent des moyens de grâce, une chose qui ne nous libère pas des combats entre notre vieille nature et la nouvelle, une chose qui plaît au Seigneur, une chose qui sera absolument nécessaire au grand jugement, au grand jour du jugement, une chose qui nous prépare à la vie au ciel. Deuxième application, les autres chrétiens et notre entourage constatent-ils des marques visibles de notre sanctification? Que celle-ci est plus que de parler éloquent de religion. Que celle-ci est différente d'expériences et d'émotions religieuses subjectives. Que celle-ci est plus que la performance occasionnelle de bonnes actions. Que celle-ci ne consiste pas à se retirer dans des couvents ou des monastères. Que celle-ci démontre éloquemment notre obéissance à la loi de Dieu, que celle-ci illustre bien notre effort constant de faire la volonté de Christ, que celle-ci démontre notre application des enseignements de Paul dans ses épîtres et plus particulièrement leur partie pratique, que celle-ci prouve que nous mettons en pratique les grâces actives et les grâces passives de l'Évangile, que notre grand Dieu soit béni pour son don ineffable qui est Jésus-Christ. Amen.
Amen.